Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, c'est un manuel d'histoire qu'Au fil des pages vous propose aujourd'hui de découvrir, mais une histoire particulière, celle des faits économiques. Non pas tant l'histoire des idées, des théories ou des systèmes économiques, bien que ça figure dans cet ouvrage, mais l'histoire des événements économiques, leur genèse et leur retentissement. De la préhistoire à la fin du 19e siècle, ou même à la fin du 18e siècle, balayer l'histoire des faits économiques est une entreprise immense et nous la devons au talent, au savoir et à l'acharnement de deux hommes, Jean Humbert et Henri Le Goërel, deux auteurs d'une magistrale histoire de la vie économique ancienne, médiévale et moderne, parue aux éditions Cujas. Je voudrais préciser que Jean Humbert, décédé en novembre 1999, était membre de l'Académie des sciences morales et politiques et c'est son élève, ami et co-auteur, M. Henri Le Goërel, que Canal Académie a aujourd'hui le plaisir de recevoir. Monsieur Le Goërel, bonjour.
Bonjour madame, merci de votre accueil.
Vous êtes professeur émérite de l'Université d'Angers et vous enseignez l'histoire des idées, dont les idées économiques, dont les faits économiques, ce qui justifie ce livre. Est-ce que l'histoire économique est une discipline récente ou ancienne ?
Elle n'est pas récente en tant que telle, elle remonte au début du 19e, mais sur un plan plus pédagogique au sein de nos universités, elle remonte aux années 60.
Donc, on peut dire récente. Par rapport aux événements que vous étudiez dans votre livre, qui eux remontent à la préhistoire, on peut considérer qu'elle est récente. On imagine donc que ce sujet, l'histoire de la vie économique, est très très vaste. Couvrez-vous la totalité de l'économie mondiale d'abord ?
Non, je le dis dans l'introduction, nous sommes surtout intéressés à l'économie européenne et à ses répercussions mondiales, mais il n'y a pas dans notre livre une histoire économique de l'Inde ou de la Chine en tant que telle.
Et vous vous arrêtez à la fin du XVIIIe siècle ?
Nous nous arrêtons exactement à la révolution industrielle anglaise qui a induit ensuite l'époque industrielle du XIXe siècle, mais je dirais que ceci est une autre histoire pour laquelle d'autres collègues plus compétents que nous ont travaillé.
Alors, cette histoire de la vie économique, donc parue aux éditions Cujas, distingue trois grandes périodes. J'ai cru d'ailleurs réviser mes classiques de littérature. L'économie antique, l'Orient, la Grèce et Rome. L'économie médiévale, 700 à 1500. Et l'économie moderne, des grandes découvertes, c'est-à-dire 1492, théoriquement, à la révolution industrielle. Alors, quelques mots sur chacune de ces périodes, monsieur. L'économie antique, y a-t-il d'abord une économie avant l'antique, c'est-à-dire préhistorique ?
Mais il y a toujours eu une économie, science. L'économie, c'est la vie quotidienne, finalement, de ceux qui travaillent, qui vendent, qui achètent, qui fabriquent. Nous avons pris avec Jean Humbert, à l'époque où j'étais son assistant, le point de départ, c'est la plus ancienne économie connue, c'est l'économie égyptienne, c'est-à-dire une économie organisée dans un cadre étatique.
Celle sur laquelle on a des documents qui
exactement, nous restent. Exactement, l'Égypte, la Mésopotamie, pour lesquelles nous avons énormément de documents, et ensuite la Grèce, bien sûr, la Grèce et Rome, avec au sein de cette économie antique des expériences d'économie dirigiste, d'économie libérale, avec l'apparition de la monnaie, avec l'organisation du commerce international. Donc il y a déjà dans le cadre de l'économie antique organisée, l'économie méditerranéenne, un certain nombre d'exemples. L'histoire ne se répète pas, bien évidemment, mais il y a toujours des leçons à tirer de tel ou tel événement.
Et ces économies antiques ont-elles joué un rôle sur les nôtres, enfin sur la nôtre, en Europe occidentale, disons ?
Je dirais peu l'économie proche-orientale, sauf dans le domaine bien sûr de l'instrument monétaire et des contrats, du droit des contrats avec le fameux code d'Hammurabi. Et c'est surtout l'économie romaine qui, dans sa partie gallo-romaine et du bas empire, a amorcé ce qu'a été l'économie européenne des débuts du Moyen-Âge.
Alors après, nous passons à la période des invasions barbares. Là, je ne sais pas quel était l'état de notre économie, mais peut-être un peu difficile.
Je dirais qu'on parle plus beaucoup d'invasions barbares. Ce mouvement a été beaucoup plus un mouvement migratoire, un peu comme le mouvement d'immigration que connaît l'Europe actuellement venant des pays du Sud. Ces gens venus de l'Est sont venus vers une Europe prospère, au climat clément. Ils sont venus, ils ne sont pas venus détruire, ils sont venus manger. Et on revient aujourd'hui sur le terme d'invasion, c'est beaucoup plus une migration.
Migration, voilà une rectification importante avec cette période que l'on a appelée après la Renaissance carolingienne. Quelle était l'économie à ce moment-là et quels étaient les faits marquants?
J'ai appelé cette époque le printemps carolingien, en ce sens qu'il y a sur le plan du commerce extérieur, disons, peu de choses. L'Empire carolingien s'était replié sur lui-même, mais il y avait un certain nombre d'activités, des marchés qui subsistaient. Et puis, il y a eu toujours dans cette période ce que j'appelle la lucarne vénitienne. Les Vénitiens ont toujours conservé des contacts avec l'Orient. Et puis, cette ouverture flamande vers l'Europe du Nord, par où s'est amorcée ultérieurement la Renaissance européenne.
Et il y a eu aussi une période difficile, 13e, 14e siècle.
Le 13e a été une période superbe. Peut-être une des plus grandes périodes de l'histoire de l'Europe,
oui.
Mais le 14e et le 15e sont des temps difficiles, tant d'épidémies, tant de guerres, tant de récessions générales. L'Europe a perdu à cette époque-là, il y a eu la grande peste. L'Europe a perdu pas loin du tiers de sa population.
Oui, on voit d'ailleurs en lisant votre livre l'importance de la démographie qui est un facteur, non pas économique mais social, mais combien c'est lié les deux.
Jean Bodin disait « il y a de richesses que d'hommes
oui. ».
Et c'est vrai que le phénomène démographique, et c'est un des apports de l'histoire économique récente, l'apport démographique est prioritaire. Avant d'étudier pourquoi tel ou tel événement se déroule, il faut savoir quel est l'état de la démographie.
Oui, donc c'est une étude que vous entreprenez. Alors pour chacune de ces trois grandes périodes, antique, médiévale, et puis la période moderne, enfin, tout de même qu'on en parle un petit peu aussi, donc qui couvre 16e siècle, 18e siècle.
Elle commence avec les grandes découvertes.
Sachant que c'est plutôt 15e.
Sachant que l'ouverture 16e. De l'Europe s'était faite un petit peu avant quand même. Les pêcheurs bretons et normands étaient à Terre-Neuve bien avant que Christophe Colomb ait trouvé Hispaniola, l'île de Cuba actuelle. Et on va jusqu'au 18e. Donc on a eu cette extraordinaire ouverture du 16e avec les grandes découvertes, avec l'arrivée de l'or et l'argent américain, une première mondialisation, comme on pourrait le dire. Puis le trou du 17e, qui est une période difficile. D'ailleurs, le mercantilisme de Colbert est une politique de réaction contre les difficultés. Et puis après, alors l'explosion du 18e. Le 18e est avec le 13e siècle un des grands siècles de prospérité européenne, où la mer a joué un rôle très important.
Oui, vous attachez beaucoup d'importance effectivement au commerce maritime.
Je suis un homme du bord de mer, j'appartiens à l'Académie de Marine, et je dois dire qu'au 18e, la mer a joué un rôle prioritaire dans la prospérité européenne et française en particulier.
Est-ce qu'on a su la garder, cette hégémonie maritime?
La France est une des premières puissances mondiales en termes de superficie, de dos territorial et d'espace économique réservé dans le monde océanique. Et malheureusement, on regarde beaucoup trop vers l'Oural et on ne regarde pas assez vers la mer.
Et justement, les échanges vers l'Est et l'extrême Asie, en Asie ont toujours existé aussi dans l'histoire de l'économie. À partir de quel moment ça a toujours existé? Ou est-ce qu'il y a une période où les échanges ont été plus nombreux, plus réguliers?
La relation avec l'Asie centrale et l'Extrême-Orient ont toujours existé, même dans l'Antiquité. Il suffit de reprendre même le texte d'Ézéchiel dans la Bible pour savoir d'où venaient tous les produits qu'on trouvait sur les marchés du Moyen-Orient à l'époque.
Alors, chaque fois que vous examinez une période, donc dans votre histoire de la vie économique, sans être systématique, c'est ce qui fait d'ailleurs l'agrément de la lecture de votre ouvrage, mais vous examinez tout de même des points qui sont incontournables, notamment les ressources, notamment les activités artisanales ou industrielles, les échanges, c'est-à-dire le commerce, et puis les structures, l'organisation ou les systèmes économiques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces quatre regards? Est-ce que c'est systématique pour toutes les époques?
Je pense qu'il faut toujours avoir un premier regard sur les productions, car il n'y a pas d'échange s'il n'y a pas de production. Et produire et échanger se déroule dans un cadre institutionnel qui est ou dirigiste ou libéral. Et dans notre livre, je dis toujours notre, puisque avec mon bon ami Jean Imbert, nous l'avions fait ensemble au début, nous avons toujours eu un regard sur le cadre général. C'est l'économie égyptienne qui est très dirigiste, c'est l'économie libérale du 18e siècle. Il faut toujours savoir quel est le cadre général des mœurs, des idées qui gouvernent finalement les activités de production et d'échange.
Alors, Henri Le Goërel, vous parliez tout à l'heure d'un événement majeur dans l'histoire de l'économie, c'était l'invention de la monnaie, mais il y en a un autre, c'est la bourse. Racontez-moi un peu comment s'est inventée la bourse.
Oh, c'est une affaire tout à fait pragmatique. Ça s'est passé à Anvers au XVIe siècle, lorsqu'arrivaient d'Espagne les convois qui amenaient surtout le poivre et puis un certain nombre de produits américains. Et les marchands d'Anvers avaient l'habitude, quand on attendait les convois, de se réunir chez l'un d'entre eux, qui s'appelait Van den Bourse. On allait chez Bourse pour spéculer sur le prix du café, surtout sur le prix du poivre à l'époque. Et l'habitude s'est prise d'aller chez Bourse. Et le mot Bourse, qui est un patronyme à l'origine, est devenu un nom commun.
Donc ben voilà, au moins on aura appris cette anecdote amusante, mais dans votre livre, on en apprend beaucoup. Est-ce qu'on pourrait dire que, d'une manière générale, l'histoire de l'économie, c'est au fond une succession de crises et de reprises, et est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire cyclique ?
Bien sûr, c'est une histoire cyclique, nous le vivons encore aujourd'hui. On parle de la croissance qui revient, qui ne revient pas, on parle de la hausse du prix du pétrole qui va... Eh bien, ça a toujours été comme ça.
Le
monde est passé continuellement par des phases de prospérité et puis arrivent des turbulences naturelles, épidémies ou autres, arrivent des guerres et on entre dans des zones où la production décline, où la démographie s'écroule, où les salaires et les prix montent et où descendent. On est allé de haut en bas. D'ailleurs, il y a une théorie des cycles en matière d'histoire économique.
En matière d'analyse économique. Absolument. Et donc, vous insistez aussi, bien sûr, sur l'importance des mutations sociales, c'est-à-dire les paysans, les commerçants, la naissance de la bourgeoisie, le rôle du clergé, le rôle des commerçants. Toutes ces catégories sociales ont évidemment une influence directe sur l'économie.
Bien sûr. On disait au Xe siècle, il y a qui orante, qui pugnante, qui loi borante. Il y a ceux qui prient, ceux qui se battent et ceux qui travaillent. Mais ceux qui travaillent à l'époque sont les paysans. Et quand les villes renaissent au XIe, XIIe siècle, il n'y a pas de place dans la société de l'époque pour les marchands. Il a fallu qu'ils se taillent une place. Ça a été l'émancipation, la révolte urbaine. C'est la naissance de la bourgeoisie qui, à l'époque, est d'ailleurs non pas une catégorie, économique, mais une catégorie politique. Ce sont ceux qui habitent la ville. Et ensuite, le bourgeois deviendra évidemment une catégorie économique particulière.
Et le clergé, dites-nous un petit mot aussi de son rôle dans l'économie.
Longtemps, l'Église a interdit le prêt à intérêt. C'est un problème, tout en empruntant d'ailleurs, et même pour certains ordres, en prêtant. Et je dis d'ailleurs dans ce livre, avec un peu de malice, qu'on a souvent canonisé par intérêt des marchands qui n'avaient pas toujours respecté les prescriptions de l'Église.
Ah, voilà, il va falloir creuser cette question.
Et ça a été le grand apport de la réforme protestante que de briser cette interdiction du prêt à intérêt. Et on a lié évidemment longtemps l'essor du capitalisme dans les pays protestants.
Absolument. Dernière question, alors vous y avez déjà répondu en partie, elle est sans doute un peu indiscrète, donc vous n'envisagez pas une suite pour nous faire le 19e et le 20e siècle.
Non, la suite existe, elle a été écrite en même temps d'ailleurs qu'avec Jean Humbert, nous écrivions ce livre il y a 40 ans, c'est Maurice Niveau qui a écrit une histoire des faits économiques contemporains, c'est un ouvrage qui est resté un grand classique.
Donc j'espère que ça ne vous empêchera pas d'envisager un autre livre. Monsieur Henri Le Goërel, je vous remercie infiniment de vous être dérangé pour venir jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Histoire de la vie économique, ancienne, médiévale et moderne. Elle est parue dans son édition 2004 aux éditions Cujas. Merci monsieur.
Écoutez Canal Académie.